Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre de l'été. Chaque semaine, nous nous penchons sur la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. Aujourd'hui, c'est un anniversaire. Jean de La Fontaine aurait eu 400 ans cette année, ça se fête. On connaît tous au moins une de ses fables, mais qui était-il, lui ? Pour nous en parler, j'ai invité Sylvie Daudeleur qui a signé une biographie de La Fontaine. On la retrouve dans un instant, mais je vous annonce quand même la suite. Nous visiterons une bibliothèque, celle d'André Manoukian, aujourd'hui bibliothèque musicale évidemment. Et puis à la fin de cette émission, nous recevrons deux libraires de l'équipe pour deux très bons conseils. La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Et bonjour Sylvie Daudeleur.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de La Fontaine, envers et contre tous, à l'école des loisirs, envers en deux mots. Vous êtes également l'auteur récemment, je le signale, d'une biographie de Sophie Germain, une mathématicienne. Vous animez d'ailleurs aussi un podcast consacré aux femmes et à la science, ça s'appelle Sophie Germain Project. Et puis, incroyable, je l'ignorais, mais avant d'allumer les micros, vous m'avez dit que vous étiez passé par Europe 1 dans les années 90, vous animiez Europe Nuit. C'est
oui.
Fou.
Et oui, ça m'est arrivé, donc je trouve ça très amusant d'être ici aujourd'hui.
Dans les nouveaux locaux. Bon alors, je vous ai invité pour parler de La Fontaine. On connaît ses fables, bien sûr, on va y venir, mais on connaît moins l'homme. Enfin, les historiens, les spécialistes, oui. Mais sa vie a été complètement éludée par son œuvre dans la conscience collective, alors qu'il n'a publié ses fables qu'à 47 ans. On commence par sa naissance peut-être, à Château-Thierry. Dans quel genre d'environnement naît-il ? Dans la plus belle maison du coin, dites-vous dans le livre.
Eh oui. Je trouve qu'il a une enfance privilégiée parce qu'il est né dans un milieu assez aisé, à Château-Thierry, donc il y a maintenant 400 ans. C'était le 8 juillet 1621. Il est issu d'une lignée de marchands drapiers qui est très ambitieuse, qui a gravi les échelons de la société un par un, laborieusement. Le père a changé de statut, il a abandonné le métier, il est aujourd'hui maître des eaux et forêts, donc une charge prestigieuse qui fait de lui un notable. Et c'est vrai qu'il a acheté la plus belle maison de Château-Thierry, qui est aujourd'hui le musée Jean de La Fontaine.
On peut visiter toujours.
Ah oui, faites-le, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est magnifique.
Et puis c'est toujours fascinant, les maisons d'écrivains, on sent comme ça des sortes d'ambiance, quand on connaît bien l'écrivain, quand on l'a lu. On sent quelque chose toujours dans leur environnement.
On sent le jardin, il y a le puits aussi. On sent qu'ils s'amusaient, on sent que c'était un lieu d'écriture également, oui.
Alors, toujours à Château-Thierry, c'est à noter, et là je parle aux écoliers qui sont en train d'apprendre l'une des fables, comme tous les écoliers, Jean de La Fontaine n'aimait pas l'école. C'est ce que vous écrivez dans votre livre.
Oui, je le présume. Hein. En tout cas, oui, il se plaint des maîtres d'études, des maîtres de collège dans ses fables. Donc on peut en déduire qu'il n'a pas trop aimé l'école, qui était assez difficile et rébarbative à l'époque, hein, puisqu'on était à 35 dans une salle, assis sur des bancs de bois toute la journée, à faire du latin, tout pendant des heures, en fait. Hein. Donc j'imagine que c'était assez inconfortable, bruyant, et un peu ennuyeux pour Jean de La Fontaine, ça c'est sûr.
Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il est rétif à toute forme d'autorité.
Oui, c'est incroyable.
Dès l'école, mais ce sera toute sa vie, ça.
Ah oui, il est réfractaire à toutes les règles, à toute forme d'autorité et de contrainte. Ça, c'est une ligne. Il a quelques lignes directrices comme ça, et c'en est une.
Mais réfractaire en mode roseau, plutôt. C'est-à-dire qu'il est souple,
défense
quand
passive.
Même. Voilà, défense passive. Il ne va pas non plus à la confrontation. Il n'est juste pas là, quoi, si on l'embête.
J'ai l'impression qu'il a la capacité à s'extraire, comme ça, par exemple, d'une conversation qui commence à l'ennuyer. Très facilement et sans gêne en plus. Il va le faire tout au long de sa vie. Ce sera une de ses marques de personnalité qui sera reprise par ses contemporains.
On va revenir tout à l'heure, mais ça lui arrive souvent par exemple de quitter son groupe d'amis sans dire au revoir.
Ah oui.
Simplement, il est parti.
Il est parti, il a autre chose à faire ou ça commençait à devenir ennuyeux. Il se moque de lui d'ailleurs à ce sujet.
Oui, ils lui font une poésie en réponse à ses sorties comme ça, très expéditives.
Ouais. Et puis, il se moque aussi de son goût pour le sommeil, hein, pour ses pannes. Il a souvent des pannes d'oreiller. Il aime dormir et le revendique d'ailleurs.
Il aime dormir parce que c'est un rêveur au fond.
Oui, je suis d'accord. Il travaille quand il dort. Il travaille, il est poète, en dormant.
C'est un distrait.
Il y a beaucoup d'anecdotes au sujet de sa distraction. Donc il oublie les adresses, il oublie les papiers qu'on lui confie, que son père a vraiment la mauvaise idée de lui confier lorsqu'il part à Paris, des papiers importants qu'il doit amener chez le notaire. Alors lui, il les perd en route, ou alors il oublie complètement pourquoi il est venu à Paris. Il suffit que sur son chemin, il rencontre un ami qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « Je ne sais pas, tu viens avec moi au théâtre ?» Il y va et il a oublié complètement sa mission. Il oublie aussi, il y avait quelque chose qui m'avait amusée, il était parti à cheval en banlieue parisienne, enfin ça ne s'appelait pas encore la banlieue, mais assez loin. Et sur le chemin du retour, il rate Paris quand même.
Il n'y avait pas de périph' à l'époque.
Oui. Ni Tour Eiffel, on peut lui accorder ça, mais quand même.
Quand il quitte Château-Thierry pour Paris, on le retrouve en fait au séminaire. Au départ, il veut devenir prêtre.
Ah, c'est surprenant, hein. C'est vraiment...
Mais pour une raison assez belle, c'est qu'il aime la tranquillité des églises, quoi. Il aime être tranquille.
Oui, c'est ce que j'ai imaginé, parce que c'est difficile quand même de trouver une raison. Il a une espèce de crise de foi, une vocation subite.
Il n'en parle pas dans les notes et les documents qu'on a sur lui dans les archives. Il y a pas de...
Alors, il raconte qu'en fait, sa vocation a décliné très vite. Hein, et il s'est rendu compte que justement, les contraintes ne lui convenaient pas. Il y en a beaucoup quand même chez les oratoriens. Et puis, il passait son temps à lire l'Astrée, parce que c'est son livre de chevet. Donc, ça n'avait rien à voir quand même avec un ouvrage théologique. Et puis il commence à écrire des poèmes où il se moque de ses compagnons de prière. Donc voilà, il est poussé vers la sortie.
Et bien voilà, en fait, il commence quand même sa vocation d'écrivain à ce moment-là, au séminaire, en observant ses collègues, quoi.
Ouais.
Et en se moquant,
surtout. En se moquant, gentiment.
Vous parlez d'Astrée, effectivement, dans votre biographie. C'est un livre qu'il lit sans arrêt et toujours le même. Il fait quelques kilomètres à pied, il va s'installer au pied d'un arbre et il lit
il en est capable,
ce livre-là.
Oui. C'est son livre préféré. Il dit qu'il va le lire jusqu'à ses 70 ans et peut-être qu'il le fera. Il lira bien d'autres choses, mais l'Astrée, c'est le roman c'est un roman quand même, c'est un best-seller aussi à l'époque. Hein. C'est un pavé, c'est un roman un petit peu à l'eau de rose et il aime ça.
Alors justement, on a évoqué rapidement, mais c'est très important pour lui, les amis. Et donc quand il arrive, donc il quitte le séminaire, qui n'était pas pour lui, il est à Paris et il commence à savoir aussi qu'il veut écrire. Et il fréquente comme ça des gens, les chevaliers de la table ronde,
oui,
qui sont des amis poètes, plus ou moins,
oui.
Ou fabulistes.
Ils sont sympathiques, hein, vous ne trouvez pas?
Ah, ils sont très sympathiques.
Ouais.
En fait, ils s'appellent comme ça parce que c'est un cabaret qui s'appelait la table ronde et c'est là où ils se retrouvent.
Ils se retrouvent et ils se baptisent les chevaliers de la table ronde. Alors, ce sont des jeunes hommes, bon vivants, hein. Ils aiment aussi les cabarets, ils boivent, ils passent des heures. Mais surtout, ils partagent un goût commun et passionné pour la littérature. Donc, ils passent des heures à discuter, à débattre de leurs auteurs préférés, Malherbe, Marot... voilà, des voitures. Et à un moment donné, bien sûr, ils se disent qu'ils ont envie d'écrire, tous. Et ce que je trouve très sympathique aussi, c'est qu'ils vont se prendre en charge, ils vont organiser des espèces d'ateliers d'écriture chez Pélisson, l'un d'entre eux, avec des exercices, avec des lectures entre eux, avec des critiques aussi bienveillantes. En fait, ils apprennent à écrire ensemble.
Oui, c'est ça. Il demande à Pélisson de donner des cours de technique, en fait, littéraire. Ils ont tous lu beaucoup. Ils savent tous qu'ils veulent être poètes, ou en tout cas écrire. Mais ils ont l'humilité de dire qu'ils n'ont pas les outils pour ça. Et donc, ils s'inscrivent, enfin, ils se créent eux-mêmes une sorte de cours où ils s'aident les uns les autres à écrire.
Oui, un cours autogéré. Oui, c'est étonnant.
Étonnant, mais surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que La Fontaine ne devient pas tout de suite écrivain. D'abord, il va travailler. Il va reprendre la charge de son père. On en parle dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Caro.
La voix est libre continue toujours avec Sylvie Daudelaire et son livre La Fontaine, envers et contre tout. Nous parlons de Jean de La Fontaine aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de ses amis, de son enfance, du séminaire. Il a voulu être prêtre, pas très longtemps, mais il a voulu être prêtre. Il en est sorti et a commencé sa formation d'écrivain avec ses amis en apprenant comme ça. Mais il faut bien vivre.
Oui, le temps des contraintes est arrivé. Un jour.
Là, il a quel âge, là ? Il a 25 ans ?
Il a 27 ans. Il a 27 ans. Quand, en tout cas, son père lui trouve une femme à épouser. Ou l'oblige, d'ailleurs. C'est un mariage arrangé. Voilà. Donc, il est marié avec une jeune femme qui a 14 ans et demi, comme le disent les biographes. Donc, on ajoute un petit peu. On ajoute 6 mois pour rendre les choses un tout petit peu plus acceptables. C'est Marie-Érica qui est bien dotée. Et puis aussi, il hérite de la charge de maître des eaux et forêts à Château-Thierry. Donc, il a des obligations professionnelles également. qui consiste à contrôler, surveiller les forêts, les campagnes, traquer les braconniers, organiser les coupes de bois, enfin beaucoup de choses finalement.
C'est une sorte de super garde-chasse.
On va dire ça. Ouais.
Et en fait, vous expliquez qu'il n'aime pas du tout ça. Enfin, il aime bien se balader dans la forêt, mais c'est tout.
D'ailleurs, il est critiqué. On trouve qu'il est un petit peu mou avec les braconniers. On trouve qu'il prélève un tout petit peu trop de bois pour son compte personnel. Enfin, voilà. Et on lui fait quelques reproches à ce sujet. Et puis surtout, c'est pas ce qui l'intéresse.
Oui, mais il est trop mou avec les braconniers parce qu'il n'aime pas embêter les gens ou parce que juste, c'est pas son affaire.
Il est chargé de les juger également. Ce n'est pas simplement les arrêter, il est chargé de les juger. Voilà, et ça fait partie de ses fonctions et ses peines sont réputées légères concernant les braconniers qui sont souvent des petites gens qui survivent en braconnant.
Et alors son couple, ça ne lui plaît pas non plus du tout.
Pauvre Marie-Erica. Surtout qu'elle est amoureuse de lui, la pauvre. Mais au bout de 2-3 ans, il la délaisse. Il la trompe. J'ai l'impression, même sans penser à mal, il la délaisse. Il part souvent à Paris. Ils ont un enfant tout de même, dont il ne s'occupe absolument pas, très peu. Il confie quand même l'éducation de son enfant à un de ses meilleurs amis, François Maucroix. Donc voilà, on ne va pas lui jeter la plus grosse pierre.
Mais c'est ce qui ressort toujours de votre biographie, c'est-à-dire qu'il est là sans être là. Il est dans son monde, en fait.
Il est dans son monde et il n'a aucun scrupule, je trouve, à le rejoindre. Il trouve ça normal. D'ailleurs, il va à un moment donné conseiller à sa femme de le tromper, puisqu'elle lui fait le reproche de le tromper. Et il va presque la pousser dans les bras d'un de ses soupirants. Ça ne le dérange pas, il trouve ça normal.
Alors, maître des eaux et forêts, ça l'ennuie, certes, mais le fait est qu'il se balade quand même dans la nature tous les jours, et c'est là qu'il croise, en fait, même s'il n'a pas encore du tout l'idée d'écrire des fables, parce que je rappelle qu'il les écrira à partir de 47 ans, il croise quand même des brochets, des carpes, des lapins. C'est là qu'il puise son matériau, ou c'est vous qui le suggérez?
Moi, je trouve que ça ne peut être que là, parce que je trouve que dans les fables, justement, c'est tellement les animaux sont les grenouilles qui s'enfuient, les lapins, la carpe et le brochet. C'est décrit avec tellement de justesse, c'est tellement bien peint, comme dirait Madame de Sévigné, qu'il les a vus. Et il a pu les voir, il a pu les croiser. C'est un chasseur également, donc il peut parler des chiens, il peut parler du gibier d'eau.
Alors, on n'en est pas encore aux fables.
Non,
mais
voilà.
Il a écrit quand même, et il écrit d'abord, il publie d'abord une traduction, mais c'est un désastre complet. Vous pouvez nous raconter ça?
Alors, il traduit, alors il se lance, ça y est, il est prêt à écrire sa première pièce qui est L'Eunuque, donc une adaptation d'une pièce de Terence. Première pièce qu'il va amener en main propre à son imprimeur à Paris. Alors, il a serré ses papiers dans un sac, il a une sacoche accrochée au sac et il galope vers Paris. Alors, il est un petit peu peureux quand même, il est un peu méfiant des forêts parce qu'il y a pas mal de brigands, surtout dans les forêts de l'Est de la France. Et soudain, il sent une présence derrière lui. Quelqu'un, un cavalier qui galope à ses trousses.
Donc il accélère.
Il accélère. L'autre accélère également, se rapproche. Jean de La Fontaine a très peur, jusqu'à ce qu'il réalise qu'à côté de lui se trouve un postillon, donc quelqu'un qui est chargé d'amener le courrier de ville en ville, et qui porte une sacoche, qui arrête Jean de La Fontaine, qui lui dit « Vous avez perdu quelque chose, Jean de La Fontaine ?»« Non, pourquoi ? Cette sacoche vous appartient ?»« Non, pas du tout. » Il ouvre la sacoche, il sort des papiers. « Mais vous êtes sûr que ce n'est pas à vous ?» Non, je ne vois pas. Et alors, il commence à lire. Et bien sûr, c'est le texte.
Ouais, il est complètement
dans la lune.
C'est
précieux, ce trésor, ce texte de l'Eunuque. Et Jean Lafontaine le raconte lui-même. C'est ce qui est amusant aussi, c'est qu'il raconte ces anecdotes-là. Il raconte ces moments, ces distractions, ces anecdotes où il n'est pas à son avantage. Il a beaucoup d'autodérision, je trouve.
En fait, il a emmené le manuscrit à l'imprimeur. Il l'a égaré en chemin. Le postillon lui a ramené. Mais finalement, c'était un acte manqué, puisque la traduction, ça va être un four complet.
Oui, un four. Enfin, je crois que c'est encore pire que ça, parce que en fait, c'est passé complètement inaperçu.
Tout le monde s'en fout, quoi.
Complètement.
Ouais, c'est ce qu'il y a de pire. Autant quand on se fait assassiner, au moins, on passe pas inaperçu.
Voilà, voilà. Oui,
mais il passe inaperçu, mais quand même, c'est aussi pendant cette époque-là, si je ne me trompe pas, qu'il trouve un protecteur. Et ça, c'est très, très important. Et là, pas n'importe lequel, en plus.
Alors, oui. Un peu après, il a écrit quelques petites choses aussi, mais qui ne sont pas non plus exceptionnelles. Et il a trouvé un protecteur en la personne de Nicolas Fouquet, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le surintendant des finances, l'homme fort du royaume à ce moment-là, qui s'est attiré à lui quand même toute une génération d'artistes, de lettrés, d'écrivains prometteurs. dans son château de Saint-Mandé pour l'instant. Et je pense que La Fontaine a été pistonné par ses amis. En fait, il a beaucoup d'amis et c'est un réseau, mine de rien. Hein. Et donc, il est embauché, il est pensionné en tant que poète de cour.
C'est-à-dire qu'il a un salaire de son mécène, Nicolas Fouquet, et en échange, il lui écrit des poèmes sur commande. Quoi.
Des poèmes de circonstance sur la personne de Nicolas Fouquet, sur les activités de Nicolas Fouquet.
Sur la construction du château de Vaugirard.
Et sur la construction du château. Alors ça, c'est normalement le grand poème qu'il est chargé d'écrire sur le chantier du château de Vaux, et qui va durer 3 ans. Et ça ne va pas donner grand-chose du côté de La Fontaine, puisqu'il va écrire, je crois, une préface ou quelques fragments qui vont rester dans un tiroir.
Et alors, les fables, quand est-ce que ça commence? Pourquoi il commence à les écrire? Évidemment, il s'inspire d'Ésope, hein, les fables d'Ésope. Certaines sont, c'est vraiment pas copier-coller, parce que c'est dans une autre forme, mais c'est la même histoire à chaque fois. Pourquoi il se dit « je vais écrire des fables » et comment c'est perçu, comment c'est reçu?
Alors, il a écrit juste avant des contes licencieux. Il a déjà une idée, je trouve, une idée de communication, une niche. Il a trouvé une niche. Il s'agit donc des contes grivois, des contes licencieux qu'il va réécrire. Ce sont des contes traditionnels de la littérature française, grivoise. Il va les réécrire à sa manière. Il va se rendre compte, ou en tout cas, il va montrer que c'est un grand styliste, que aussi il est un excellent conteur, qu'il s'est troussé une histoire. Et surtout, il va rencontrer du succès. C'est-à-dire que ça va très bien marcher. Donc, à partir de là, il va imaginer autre chose, je pense. C'est un petit peu un déclencheur. Hein. C'est écrire les fables, la réécriture des fables d'Ésope et d'autres.
Et ça marche tout de suite?
Ça marche tout de suite. C'est incroyable. C'est le best-seller, en tout cas, du XVIIe siècle, qui va être réimprimé des dizaines de fois.
Comment se fait-il que ce soit encore un best-seller aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de si moderne dans ces fables?
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de moderne. Je les trouve ni vieillis, ni modernes. Je les trouve toujours actuelles, en fait. Je crois que c'est ça, leur modernité éternelle. C'est-à-dire qu'elles ont dû paraître modernes pour nos grands-parents. Elles seront modernes peut-être pour nos enfants, je l'espère. Mais elles sont actuelles. Elles parlent de nous. Elles continuent à parler de nous, de nos travers, de notre avarice, de notre soif de pouvoir, parfois, ou de grandeur. Elles parlent de nous,
et
de l'être humain.
L'intemporalité des animaux qui fait qu'on en fait ce qu'on veut à chaque époque, finalement.
Oui, oui.
Alors, il ne s'arrêtera pas là. Hein. Vous listez à un moment ses œuvres, 240 fables, 64 contes, 2 tragédies, 1 roman en prose et en vers, 1 idylle héroïque, 2 livrets d'opéra, 2 comédies, les fragments d'un songe, un ballet comique, 1 farce-ballet, des poèmes religieux, des discours, des épîtres, des poèmes de circonstances, des satires, des autres, des épigrammes, des madrigaux, des lettres de voyage, 1 poème scientifique. Sans parler des pièces perdues, c'est-à-dire qu'on trouvera peut-être un jour des inédits de La Fontaine.
On ne sait jamais, on l'espère.
On espère aussi. Merci beaucoup Sylvie Dodler. La Fontaine, envers et contre tous, c'est aux éditions L'École des loisirs. Il y a aussi votre livre sur Sophie Germain, une mathématicienne, et votre podcast sur les femmes et la science, Sophie Germain Project. Merci beaucoup Sylvie Dodler.
Merci de votre invitation.
Et je signale aussi la réédition à la Pléiade des œuvres de Jean de La Fontaine. C'est sublime. Dans un instant, visite de bibliothèque. Nous partons chez André Manoukian autour de ses livres et de son piano, bien entendu. A tout de suite.
La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue et nous partons visiter une bibliothèque, celle d'André Manoukian. Littérature musicale, vous allez voir. Bonjour André Manoukian.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous. Évidemment, ça étonnera personne quand on est entré. Alors, tout en haut d'un petit immeuble à Paris, il y a un piano à queue qui est là. Et en fait, j'ai une seule question pour l'instant. C'est comment vous avez réussi à monter ce piano dans le tout petit escalier qu'on a arpenté?
En fait, il est rentré par la fenêtre. C'est une grue qu'il a portée. Et c'est le deuxième piano que j'ai ici. Donc, chaque fois, c'était un petit peu un événement. J'ai photographié une immense flèche de grue qui s'installe en bas et qui va monter jusqu'au 4e étage, et le piano pend et il rentre par la fenêtre. Sans les pieds, un piano à queue, ça peut s'introduire n'importe où.
Et alors, c'est un chouette appartement avec une... Donc là, on est sur une mezzanine, il y a votre piano, il y a une cuisine ouverte et sur la droite, il y a une pendule gigantesque qui doit faire 2 mètres de diamètre. Ça aussi, ça n'a pas dû être facile à monter.
Ça aussi, c'est monté par la fenêtre. Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Elle n'est même pas à l'heure.
Elle n'est même pas à l'heure, 10h10. Mais elle vient d'un beffroi du Nord. Et puis voilà, ça ne sert à rien, puisque effectivement, elle ne tourne pas. Le mec, il m'a dit, on peut vous l'animer si vous voulez, mais je ne vous conseille pas. Je dis, bon, voilà. Peut-être que j'ai des problèmes avec le temps. Donc, Donc je demande que le temps s'arrête de temps en temps.
Vous avez un très très beau piano, j'y reviens, mais très très beau piano à queue noire. Et vous avez enlevé la partie supérieure, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans la partie supérieure des touches.
Oui, toutes les
touches. On voit le mécanisme.
Bah, c'est pour que le son, en fait, j'en profite mieux comme ça, voyez-vous. Le son me vient ici par en dessous. Je vois la mécanique et puis j'ai supprimé le pupitre aussi au-dessus pour glisser mes mains et pour étouffer les cordes de temps en temps. Voilà, on dialogue tout le temps avec.
C'est joli. Ouais,
il est plutôt organique. Il y a des micros à l'intérieur, il y a des partitions dessus.
Alors oui, justement, on est là pour parler des livres. Et évidemment, les livres pour vous, c'est aussi les partitions. Alors, il y a des manuscrits même de partitions, c'est assez émouvant. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ?
Ah, ça, c'est moi, c'est ma musique que j'écris. C'est l'idée d'un morceau.
Et vous entendez en lisant ou pas ?
Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est le dernier album que je suis en train de composer. Là, celui-là, ouais, ça fait comme ça, ça. Il y a des indications, fa dièse phrygien de temps en temps pour les impros et tout ça.
Est-ce que vous pouvez alors vous mettre au lit avec une partition comme d'autres se mettent au lit avec un roman avant de dormir ? Vous pouvez vous écouter un album en regardant les pages ?
Ah oui, enfin m'écouter. Du coup, c'est différent, mais j'aime bien regarder les choses et puis un petit peu essayer de les analyser, par exemple.
J'ai des classiques, là.
Ouais, j'aime bien reprendre du Beethoven, par exemple, ou Bach, et les analyser et les transposer. En gros, il y a une cadence chez Beethoven qui est vachement bien. Je la fais dans toutes les tonalités. En gros, ça fait ça. Ça vient de la 8e sonate de Beethoven.
Ça, c'est la partition.
Et c'est ça. Et puis, alors, du coup, après, je regarde ce qui se passe. Et puis, je vois ça. Et puis, je me dis, tiens. Et puis, je continue. Et puis, je continue. Et je continue. Et du coup, tous les jours, je fais cet exercice-là d'une cadence de Beethoven que je multiplie par les 12 tonalités. Donc, ça fait travailler à la fois les doigts et en même temps la tête un petit peu.
Et c'est amusant parce qu'on parlait des partitions et de la manière de lire de la musique et de l'entendre. Et quand vous avez joué, vous avez dit « je vois ça » et « je regarde et je vois ça ». C'est amusant, on pourrait se dire que vous l'avez entendu, mais vous le voyez aussi, ça se voit aussi la musique avec les touches.
Avec le piano, en fait, on a des algorithmes un peu dans la tête et des schémas. Ouais, c'est ça. On est obligé de savoir tout le temps la tonalité dans laquelle on est. Sur une guitare, par exemple, vous déplacez avec le capot d'astre, quoi. Mais sur le piano, si vous faites une gamme de do, et tout d'un coup, vous faites une gamme de do dièse, ils sont séparés que par un demi-ton, mais c'est tout un agencement complètement différent entre les notes noires et les blanches. Donc, vous êtes obligé d'avoir des patterns. Vous voyez, quelque chose de visuel.
Alors, tout autour du piano, il y a des livres. Sur les murs, dans une jolie bibliothèque, d'ailleurs rétro-éclairée. Ça, c'est toujours agréable pour quand on cherche un livre.
Mais ouais.
Comment ils sont rangés ? Est-ce qu'il y a, d'abord, il y a une organisation ou pas ? Comment c'est conçu ?
Alors, c'est un vrai foutoir. J'ai voulu les organiser en commençant ici par les ouvrages philosophiques, n'est-ce pas ? Et en fait, il faut vous dire que j'ai hérité, il n'y a pas très longtemps, de la bibliothèque de mon père. Et toute sa vie, il a essayé de classer ses bouquins. Et une fois, c'était moi, j'allais chez lui à Lyon, puis j'ai commencé à l'aider à classer. Il était tellement content. Et puis, je m'aperçois que je refais la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont là, en foutoir. Si, ici, vous avez quand même les philosophes, quoi, vous voyez
Platon,
là, vous avez Platon, Lucrèce. Qui est là, voilà, exactement. Lucrèce, c'est un de ses philosophes préférés.
J'ai vu tout Nietzsche, juste sur le côté, là-bas aussi.
Voilà.
Nietzsche, en tout cas, il y a beaucoup d'ouvrages de Nietzsche. Et d'ailleurs, ils sont en version bilingue. Ainsi parla Zarathoustra.
Parce qu'il était germaniste et il adorait les lire en allemand.
Ah, et ça, c'est à votre père aussi ?
Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais. Et ce que j'adore de temps en temps, c'est m'en choper un et puis regarder avec ses annotations à lui. pour le coup, c'est super émouvant parce qu'il avait l'habitude de tout souligner.
Protagoras.
Et encore un papelin. Ici, 26 février, bibliothèque Lyon-Pardieu, matin, vidéo Parsifal. Ah ouais, programme 2005, premier semestre. Il faisait partie du cercle des amateurs de Wagner.
Il n'avait que des qualités.
Voilà, vous voyez.
Ah oui.
Ouais.
C'est carrément un paragraphe manuscrit.
C'est sa vie à écrire sur ses bouquins, souligner tout. Mais comme c'est un peu bordélique parce qu'il était autodidacte, du coup, chaque fois, je me dis, mais pourquoi et tout. Et c'est marrant.
Et alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui, effectivement, voilà, griffonnent dans les livres et ceux qui supportent pas de mettre même un peu de crayon de bois sur leurs livres.
Ah ouais.
C'est quoi, vous, votre religion là-dessus?
Ah non, moi, ma religion, c'est que... Alors, j'aime bien les triturer, hein, je leur... mais non, j'ai pas le courage de faire comme lui faisait, les annotations. Mais je pense que s'il écrivait, s'il réécrivait par-dessus, voire parfois il recopiait des passages entiers sur des cahiers, c'était aussi pour se rappeler, quoi. S'il pouvait, c'était une manière de se mémoriser tout ça. Et moi, j'ai une espèce de mémoire un petit peu plus sélective, je ne sais pas. J'arrive à capter les... Par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais ouvert La naissance de la tragédie de Nietzsche. C'était à lui, hein.
Quand j'étais petit.
Oui, oui. Et j'avais lu les deux premières pages. Et il se trouve que dans les deux premières pages de La naissance de la tragédie, il y a tout. C'est-à-dire qu'il vous parle, Nietzsche, de l'esprit apollinien, de l'esprit dionysiaque, de l'esprit apollinien qui est plutôt vertical, qui élève et qui extrait l'homme, qui l'individualise, et l'esprit dionysiaque, l'esprit grégaire. Et qu'au fond, la tragédie, c'est la confrontation entre cet esprit qui fait que, qui vous isole du groupe, c'est Antigone, genre si j'écoute mon cœur, je n'obéis pas à la loi du clan, et puis la loi du clan qui est plutôt horizontale et transversale. Toutes les tragédies grecques sont... l'homme confronté entre ces deux pulsions.
La sagesse et le désir ?
La sagesse, c'est l'instinct, la...
le désir. La raison et le cœur ?
Ouais.
Vous êtes plutôt côté... Les deux. Non, vous êtes les deux aussi, ouais.
Plutôt cœur et plutôt parfois un peu même cul, mais... Enfin, je veux dire... non, je veux dire, j'aime pourquoi bien la sensualité des choses.
Et comment vous réconciliez alors
moi,
les deux?
Bah, par la musique, parce que finalement, l'art, c'est ce qui va réconcilier ces deux tendances-là. On va dire que c'est les deux tendances qui nous animent à tout le temps. Mais il n'y a pas de jugement chez les Grecs. La tendance apollinienne, elle est importante, mais la tendance dionysiaque, elle est importante aussi parce qu'il faut qu'on retrouve notre esprit grégaire, qu'on danse ensemble, on fait qu'il y ait des libations. Et c'est après, avec les chrétiens, que ça s'est un petit peu fourvoyé avec la musique de Dieu et la musique du diable. Mais chez les Grecs, il n'y a pas ce jugement. On a besoin, l'homme... Et c'est un être qui est à la fois grégaire et en même temps, c'est un être solitaire.
Justement, il y a plusieurs exemplaires de la Bible et il y a le Coran aussi. Ça, c'est à vous ou c'est la bibliothèque de votre père?
Ouais, c'est pareil. Je me suis toujours fasciné avec les religions et j'avais même un rayon ésotérique il y a très longtemps. Quand le Megastore était ouvert le dimanche, pour moi, c'était du pain béni. À Paris, j'y allais puis je prenais tout ce qu'il y avait dans la librairie ésotérique. Alors, j'ai lu des trucs, des fois un peu velus, hein, mais il en est resté que des choses. Quoi,
c'était tout. La magie noire, c'était l'alchimie, c'était quoi?
Non, c'était plutôt l'alchimie. L'alchimie, c'est pas... La magie noire, c'est débile, mais en fait, c'est... l'alchimie, c'est la transmutation bon, du plomb en or, mais c'était un symbole plutôt. On est plutôt dans une écriture symbolique, j'allais dire. Et l'alchimie, c'est celui qui accomplit le grand œuvre, qui arrive à se transformer lui-même pour aller un petit peu plus haut dans l'affirmation de sa conscience, enfin élargir un peu le champ de sa conscience, quoi, voilà. Pour moi, c'était ça. Alors, il y avait vraiment à boire et à manger, et puis je m'étais fixé sur quelques écrits, mais ces notions d'esprit, ça me plaisait bien. Ce qui fait que quand Mitterrand, à la fin de sa vie, a dit « Je crois en force de l'esprit », je comprenais ce que ça voulait dire. Pour moi, l'esprit, c'est quelque chose de physique, pratiquement, quoi.
Vous aimez Nicolas Flamel, par exemple, c'est cette figure-là?
Nicolas Flamel, pour moi, c'est un petit peu du folklore. Il n'était pas loin d'ici et tout ça. Et c'est vrai que c'était...
Un des chantres de l'alchimie.
Voilà, c'est ça, au 14e ou 15e siècle, la Tour Saint-Jacques avec tout ça. Mais au fond, ce mouvement-là, c'est quoi? C'est que c'est l'Occident qui redécouvre l'Orient. Et puis avec la route des croisades et tout ça, on se... Je dirais... On redécouvre un petit peu toutes ces forces. On a des médecins qui sont à la fois des philosophes et qui disent que pour guérir le corps, il faut guérir l'âme aussi. On a quelque chose d'assez chouette. On a Léonard de Vinci qui est un humaniste. On est dans une époque où finalement, on ne distingue pas la science de la spiritualité. Et du coup...
voire de la magie. Alchimie, c'est alchimie, c'est la magie. C'est encore cette réconciliation qui vous plaît.
Ouais, mais la magie, j'ai jamais cru. Pour moi, ça marche pas.
Une forme de magie dans le sens spiritualité.
Ouais, mais...
croyance.
Moi, je dirais que plus fort que ça, presque la visualisation de l'esprit. Quand on est un artiste et qu'on joue devant une scène de, je sais pas, 600, 800 personnes, on joue devant un seul esprit. Ça, c'est intéressant. On ne joue pas devant 600 individus, on joue devant la foule, elle dégage un inconscient collectif qui est un seul esprit. Ça s'appelle l'égrégore, et ça existe dans certaines religions aussi. Alors l'égrégore, il existe à partir de 10, à partir de 12, c'est la force des esprits collectifs. Du coup, ça c'est assez intéressant, parce qu'on retrouve ça chez les gilets jaunes aussi. Il y a un truc qu'on n'a jamais dit, par exemple, sur les gilets jaunes, c'est que pendant mai 68, il y avait des gars qui s'appelaient les situationnistes. Et dès qu'il y avait une assemblée, une AG, ils essayaient de tout faire pour qu'il y ait quelqu'un qui devienne leader. Et à partir du moment où il y avait un leader, les situs l'aidaient, bim, leur truc, c'était de détruire le leader pour en faire émerger un autre, pour qu'il y avait une fin. C'était qu'à la fin, la foule comprenne qu'elle n'avait pas besoin de leader. Et si on réfléchit sur les gilets jaunes, c'est ça qui se passe. Dès qu'il y a quelqu'un qui émergeait en tant que leader... il se faisait dégommer, quoi. C'était un mouvement qui ne voulait pas de ça. Du coup, ça m'a fait marrer parce que c'est un peu des archétypes, je dirais, de fonctionnement entre un collectif et un esprit. Et pour finir avec ces trucs de l'esprit, c'est Michel Maffezoli aussi qui doit être ici dans le coin. C'est un grand sociologue dans son livre « Le temps des tribus » qui définissait le créateur de mode. Il dit « Un créateur de mode, c'est quelqu'un qui sait, à un moment donné, capter... un désir collectif qui n'est pas nommé. Et quand il va présenter la chose à la foule va reconnaître son rêve qu'elle n'arrivait pas à formuler. En gros, c'est un slogan publicitaire d'une marque. On peut le dire, ça n'existe plus. Enfin, la marque existe toujours, mais ce slogan n'existe plus. C'était Sony. C'était « T'en as rêvé, Sony l'a fait ». Je trouve que c'est un des plus beaux slogans qui soit pour définir ce que c'est le travail finalement d'un artiste qui rencontre son public. En fait, la foule reconnaît un rêve qu'elle n'arrivait pas à formuler elle-même, mais le créateur, finalement, ça a été comme un médium qui a pigé ça.
J'imagine que pour vous, la musicalité des mots, ça a un vrai sens. Vous entendez la musique des mots quand vous lisez un bon écrivain ?
Ah ouais, il y a une rythmique qui est formidable et qui nous emporte. Je trouve que c'est le style, c'est Céline qui disait... des écrivains, il y en a des centaines par siècle. Des gars qui ont du style, au XXe siècle, il y en a eu deux, Proust et moi.
Je ne connaissais pas. Ça lui ressemble bien.
Le style.
Vous aimez Céline ?
Ouais.
Pour son style ?
Bah, évidemment. Non, enfin, c'est un écrivain immense. Après, toutes les conneries, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, c'est lui, il invente l'écrit parlé, quoi. Et puis, il invente un langage. Victor Hugo aussi, d'une certaine manière. C'est la richesse. Victor Hugo, c'est le classicisme qui va jusqu'au bout, jusqu'à sa limite. Après, on ne peut plus faire ça. Après, il y a Proust qui va faire des phrases qui vont durer trois pages avec sa pensée en train d'observer. C'est parce qu'il est malade. Enfin, voilà, j'imagine que c'est parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est asthmatique, c'est parce qu'il manque de souffle qui fait justement ces phrases qui demandent un souffle de dingue.
Sans respiration.
Ouais. Et puis, tout le contraire, Céline, avec très peu de mots qui vous clouent sur place.
Est-ce qu'il y a des phrases, des musiques de mots qui vous donnent envie de poser le livre pour vous mettre au piano qui est juste à côté, pour essayer de restituer d'une certaine manière le texte ou la musique que vous venez de lire ?
Non, ça, je peux pas faire ça et j'oserais pas le faire. Parce que c'est...
Je reformule ma question. Est-ce que quand vous composez la musique d'un auteur, d'un grand, d'un Céline, d'un Houellebecq, d'un Proust, va ensuite contaminer votre propre rythme ?
Ah ! Bah, c'est sûr que si je veux être un tout petit peu concis et pas bavard, je vais plutôt penser effectivement à ces gars qui font des phrases très courtes. Hein. Laurent Godet, Céline, des phrases choc comme ça, qui sont en pleine d'action. Ça, j'aime beaucoup.
Voyage au bout de la nuit, vous savez jouer au piano, par exemple ?
Oh non, un voyage au bout de la nuit, putain. J'aurais presque envie de faire un mélange de dissonance. Et de super sobriété. Donc, là, on est dans un accord parfait, mais il y a ce demi-ton qui vient tout péter. Et puis, en même temps, qui marque un petit peu l'errance. On ne sait pas très bien dans quelle tonalité on est, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui est en train de se chercher, quoi. Après, il va peut-être un peu s'énerver. Il est un peu seul, hein, le gars. Bardamu.
Super, merci. Je vois aussi beaucoup, mais je m'y attendais, de biographies ou d'autobiographies de musiciens. Il y a Duke Ellington, il y a Aznavour. Pourquoi les musiciens ont toujours des vies extraordinaires ? Je pense à Bob Dylan, qui est devenu même prix Nobel de littérature et qui a écrit son autobiographie. Life de Keith Richards, c'est un grand livre, et une vie combien romanesque. Comment vous expliquez ça ?
Ces musiciens-là dont vous parlez, effectivement, ils ont un destin exceptionnel parce qu'ils manient des forces qui sont balèzes. Vous savez, il y a la légende des 27 ans, hein, tous ces grands artistes qui n'ont pas...
Le club des 27,
hein, c'est Jimi Hendrix, jusqu'à la dernière, c'était Amy Winehouse, il n'y a pas longtemps. Janis Joplin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors, ils sont tous partis des excès de la drogue ou de l'alcool ou tout ce que vous voulez, mais si on pense à Michael Jackson ou à Prince, ils sont morts, ils avaient 50 piges, c'est super jeune, quoi. Le prix à payer, c'est ça. À un moment donné, on rentre... je ne sais pas si vous avez déjà touché quelqu'un qui sort de scène. Vous avez l'impression, quand vous le touchez juste et qu'il vient de sortir sur la scène, qu'il est habité d'une énergie de dingue. C'est tous les gens qui sont là, quoi. Donc, on n'est pas dans un état normal. Il faut un petit moment pour qu'on redescende, comme si l'énergie de tous les gens qui étaient là, elle vous habitait. Alors ça, c'est OK, ça peut être formidable. Mais à un moment donné, quand vous n'avez plus ça, vous tombez en dépression. Donc, c'est pour ça qu'on a des vies qui ne sont pas normales. On deal avec des émotions. On est des passeurs, on le fait inconsciemment quand on est jeune. Et puis après, quand on croit qu'on a les recettes, c'est là qu'on connaît nos premiers échecs, parce que tu crois que tu as tout compris, puis tu n'as rien compris du tout. Et après, il faut retrouver cette innocence. Donc, il faut se mettre dans des états pour composer, sans substance. Il faut être calme, il faut... avoir l'esprit ouvert, il faut laisser venir les choses à soi. Et puis voilà, c'est toutes ces choses qu'on manipule. Et ça peut être un mystère pour les gens, en se disant, mais pourquoi eux, ils font ça et pas nous ? Après, il y a tout un débat. Hein. Moi, je pense que chacun est capable de le faire, mais c'est peut-être une question d'éducation, de chance, de rencontre. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que toutes ces autobiographies sont fascinantes.
Merci beaucoup, André Manoukian. On vous laisse au milieu des vibrations de votre piano et de tous ces livres aussi.
Merci à vous. C'était waouh. Un voyage.
Merci.
Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 dans un instant, les libraires.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue, La Voix est libre de l'été et donc deux libraires au lieu d'un habituellement et en plus dans les studios d'Europe 1. Je reçois cette semaine Anne Burzinski de la librairie L'Écriture à Vaucresson et Christophe Daniel, librairie La 25e Heure, c'est à Paris. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Nicolas.
Et on commence avec vous, Anne. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Eh bien moi j'ai choisi de vous parler du livre Le Roi n'a pas sommeil de Cécile Coulon.
Qu'on reçoit à la rentrée.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle sort, nouveau roman de la rentrée littéraire.
J'ai entendu dire et je pense que je serai pas loin parce que...
Venez, vous êtes la bienvenue.
Ça me donne quand même super envie, pour moi c'est un événement. Alors en fait, pourquoi ce livre déjà ? Il se trouve que ce livre-là, il est sorti en 2012. Il était donc au départ chez Viviane Ami. Ensuite, il est sorti, donc maintenant, il est chez Point en poche. Et pour moi, ce livre, je crois qu'on a tous, en tant que lecteur, et peut-être encore plus en tant que libraire ou en tant que chroniqueur, enfin, il y a vraiment des livres qui sont emblématiques pour nous, qui sont symboliques, qui représentent une époque ou quelque chose de particulier de notre vie. Et en fait, pour moi, Le Roi n'a pas sommeil, ça a été mon entrée en librairie.
Ah ouais, carrément.
Ouais, carrément, parce que du coup, j'étais libraire, bébé libraire, quand je l'ai lu. Et ça a été le tout premier coup de cœur de libraire que j'ai écrit. Donc ça, ça a une symbolique un peu particulière.
Ah oui, la petite vignette là, que vous mettez sur les livres.
Ouais, la petite vignette, et ben, c'était la première que j'ai écrite, avec toute la maladresse que tu peux avoir quand t'as envie de le conseiller, que tu sais pas encore vraiment bien faire ça, etc. Et du coup, c'était sur ce livre-là, donc ça a un goût particulier. Donc, Le Roi n'a pas sommeil, de quoi il s'agit? Alors en fait, c'est donc un livre qu'elle a écrit toute jeune, puisqu'elle avait 22 ans quand le livre est sorti. On avait le même âge, puisqu'on a 2 jours d'écart. Et en fait, ça ne fait pas du tout groupie de savoir sa date de naissance, c'est ça qui est bien. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Hogan. Ça se passe aux États-Unis, mais alors, village... d'Amérique profonde, un peu à l'abandon, avec que des personnes qui vont pas très bien. Et voilà, on sent qu'il y a une petite lourdeur, quoi. C'est un peu des pauvres vies, quand même. Et Thomas Hogan, c'était un bon gars, en fait. Il réussissait pas mal en cours, il était malin, il était plutôt attachant. C'était pas un mauvais gamin. Et alors, pourquoi on en arrive là? Parce qu'au début du film, enfin du livre en l'occurrence, c'est marrant que je dise film parce qu'en fait, vraiment, il y a un coup...
Vous l'avez vu, quoi.
Ah ouais, c'est drôle. C'est vraiment un sacré lapsus parce qu'il y a vraiment ce côté-là. Au début du livre, il est arrêté par la police et on se dit, mais Thomas, qu'est-ce que t'as fait? Et donc, on va remonter dans le temps. On va remonter dans le temps pour comprendre, en fait, son histoire et pour comprendre comment il en est arrivé là. Donc, refaire l'histoire à l'envers, en fait, en disant, on va refaire son histoire et après on en arrive ici et donc comment ça bascule avec l'écriture de Cécile Coulon que j'ai rencontrée à ce moment-là, une écriture très visuelle, assez brute, vraiment ce côté roman noir où il y a une ambiance particulière, on sait que ça bascule, mais en plus j'ai vraiment eu l'impression de rentrer à la maison avec ce livre, je me suis dit ah ça y est c'est chez moi.
Le Roi n'a pas sommeil, c'est chez...
C'était chez Viviane Ami en grand format et chez Point en poche.
D'accord, parfait. Je vous arrête là parce que vous ne faites pas une vignette. Là, vous êtes en train de nous faire un livre sur le livre. je le vois arriver, c'est justement en librairie, ça. Christophe Daniel, juste avant de parler de votre livre que vous avez choisi, c'était quoi, vous, le livre qui vous a fait entrer en librairie? J'avais jamais eu cette idée, mais Anne vient de me la donner. Est-ce que, comme les écrivains qui se disent en lisant un livre, je serai écrivain ou journaliste littéraire éventuellement, est-ce que les libraires, et vous en l'occurrence, c'était pareil?
Alors, moi, je crois que ce qui m'a fait entrer dans une librairie autant que je m'en souvienne, c'était la science-fiction. J'étais
en général
et voilà, j'ai été passionné de science-fiction pendant des années. Maintenant, j'ai un petit peu perdu de vue ce genre, mais j'y reviendrai peut-être.
Vous écrivez un peu des nouvelles de science-fiction et
tout ? Pas du tout.
Non, okay. Non, je tente. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Alors, moi, je vais vous parler d'un intemporel, dans la catégorie intemporel. Mm-hmm. J'avais surtout envie de parler d'un auteur. Cet auteur, c'est Vladimir Nabokov. Et je me suis dit, mais quel titre je vais choisir de Nabokov ? Parce que le problème, c'est qu'il y en a un qui fait beaucoup d'ombre à tous ses autres romans, c'est Lolita, évidemment. Mais il y a une quantité de... Allez, je vais dire chef-d'œuvre. Vraiment, il y a une pléthore d'autres titres beaucoup moins... célèbre. Et celui dont je vais vous parler, c'est le premier, moi, que j'ai lu de Nabokov. Et je suis toujours attaché d'une façon particulière au premier roman d'un auteur. Donc celui-ci, c'est La vraie vie de Sébastien Knight. C'est un roman, c'est le premier roman que Nabokov a écrit en anglais, parce qu'il a commencé par écrire en russe.
Il est Knight vraiment... comme un chevalier.
Knight comme un chevalier ou comme un cavalier aux échecs. Mmh. Et donc, il a écrit ce roman en 41 en anglais. Moi, je suis toujours totalement admiratif par ces quelques auteurs comme Conrad, Kundera ou d'autres qui...
Miguel Bonnefoy, qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et quand on lit ce roman, la virtuosité, la qualité d'écriture, c'est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, La vraie vie de Sébastien Knight? Il commence à la mort de Sébastien Knight, qui était un écrivain talentueux, mort à 37 ans. Et 2 mois après sa mort, son demi-frère décide de mener l'enquête pour savoir qui était vraiment Sébastien Knight. Lui a des souvenirs un peu parcellaires parce qu'ils avaient quand même 10 ans de différence. Donc il y a quelques souvenirs familiaux, mais beaucoup de trous. Et donc, il va courir l'Europe pour mener l'enquête et avoir des témoignages, démêler le vrai du faux. Et en fait, la vraie question qui est posée dans ce livre, c'est peut-on s'approcher de la vérité humaine de quelqu'un, aussi proche soit-il ? Et tout ça écrit dans une langue magnifique, avec des moments... La fin est sublime. Et puis avec tous les thèmes que Nabokov explorera par la suite, l'exil, la solitude, le double... C'est il y a un titre de Nabokov qui s'appelle L'Enchanteur. L'Enchanteur, c'est lui. Oui.
On vous sent presque ému quand vous parlez de ce livre.
Oui.
La vraie vie de Sébastien Knight de Vladimir Nabokov, qu'on retrouve donc à la librairie La 25e Heure à Paris. Merci beaucoup, Christophe. Et Le Roi n'a pas sommeil de Cécile Coulon. Ça, c'était votre choix. Anne Burzinski, librairie, l'écriture à vos cressons. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
C'était la dernière page de cette émission. Et merci aussi à Agnès Vaudin pour la préparation et à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous avec Welbeck. Voilà. Et bien, salut, à la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.